Radio G. 101.5 FM.
Is not worth living. And you, you've got to give them hope.
À la vie, à l'amour, que ces moments-là restent en nous pour toujours. À l'amitié, au beau jour, qu'ils éclairent vos parcours.
Press play, don't press pause. Progress march on, with the veil over our eyes. We turn our back on the cause, till the day that my uncles can be united by law. When kids aren't walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love.
Les familles homoparentales sont une réalité. Et on voit souvent ces familles homoparentales qui ont encore cette difficulté à pouvoir simplement dire ce qu'elles vivent. Il y a souvent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait encore des discriminations en la matière.
Radio G 101.5 FM et c'est l'émission Quasar on the Air.
Je me suis trompé de micro, excusez-moi. Donc nous sommes sur Radio G. Angers 101.5 FM et c'est l'émission Quasar on the Air. Alors ce soir, qui y a-t-il ? Il y a Arnaud.
Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Anne.
Mohamed.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Anne.
Nous avons le public. Merci le public.
Bonsoir cher public.
Bonsoir
merci
public.
Merci d'être aussi fidèle.
Bisous, bisous public. Et nous avons ce soir un invité parce que c'est une émission dossier. On a du dossier. On va parler du VIH, SIDA et pourquoi Florian, toi qui es notre invité ce soir et qui sait tout, ou presque.
Presque hein, quand même.
Florian qui fait partie de AIDE.
Tout à fait.
Et tu as quel rôle dans AIDE ?
Je suis volontaire à AIDE et je représente la région dans son ensemble.
Région Angers, la région Pays de Loire.
Mais je suis basé à Angers.
D'accord. Et donc, bon, il y a encore de quoi dire alors que franchement, on pourrait penser que depuis 35 ans que ça dure.
Et oui.
On pourrait se dire que ça se calme, qu'on n'a presque plus rien. Eh ben si, on a beaucoup à dire encore. Donc ce soir, spécial SIDA, donc d'abord une petite introduction qu'on va faire à trois voix. Ensuite, Arnaud, tu nous parleras de...
Je vous parlerai de la santé des exilés en rapport évidemment avec, avec le VIH et le sida.
Bien entendu. Et puis ensuite, quelques dates pour le sida, parce que c'est vrai qu'il faut se remémorer un petit peu de quand ça date et de ce qui s'est passé. Et ma foi, on aura après Florian qui va pouvoir intervenir quand il le veut, à mesure de nos pérégrinations dans cette aventure, si j'ose dire, et qui de toute façon a beaucoup à nous dire, je pense. Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui ? Parce que le 1er décembre, c'est quoi ?
C'est la journée mondiale de lutte contre le sida.
Absolument.
Donc, luttons. Mmh. Alors, une intro. Le VIH-Sida a fait des millions de morts déjà. Depuis le début de l'épidémie, il y a 35 ans, le combat contre les contaminations ressemble à un marathon sans fin. Malgré les progrès, le VIH, ou plutôt les VIH, car il y a des centaines de souches identifiées, résistent. Depuis 35 ans,
75 millions de personnes ont été infectées par le VIH. 32 millions sont décédées des suites d'une maladie liée au stade sida.
Environ 2 millions de nouveaux et nouvelles séropositifs et séropositives par an.
Les dernières statistiques mondiales sur l'état de l'épidémie du sida en VIH, statistiques ONU-SIDA pour l'année 2018, indiquent que
37,9 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH, un nombre en constante augmentation grâce à la généralisation des antirétroviraux efficaces et l'accroissement de la longévité et la meilleure santé de ces personnes.
23,3 millions de personnes bénéficient d'une thérapie antirétrovirale.
Alors que
1,7 million de nouvelles infections ont été recensées.
770 000 décès liés au sida ont été enregistrés dans le monde entier.
Cependant, la lutte mondiale contre le VIH a évité 30 millions de nouvelles infections à VIH et près de 10 millions de décès liés au sida depuis l'an 2000, lorsque les objectifs du millénaire, couramment appelé OMD, ont été établis. La fin de l'épidémie d'ici 2030.
Alors où en est-on, Anne ?
Eh bien, la recherche contre le VIH a avancé à grande vitesse depuis la découverte du virus. Mais qu'en est-il de la communication et de l'égalité dans le monde, eu égard au traitement et à l'information ?
Charlize Theron, à l'IAS 2016 de Durban.
Durban, en Afrique du Sud. Et Charline a dit « La vraie raison, expliquant que nous n'avons pas vaincu l'épidémie, repose sur un simple fait. Nous estimons des vies plus que d'autres. Nous estimons plus les hommes que les femmes. L'amour hétéro plus que l'amour homo. La peau blanche plus que la peau noire. Les riches plus que les pauvres, les adultes plus que les adolescents. Le VIH ne se transmet pas uniquement par le sexe, il se transmet par le sexisme, le racisme, la pauvreté et l'homophobie.
Quelques précisions ?
Alors l'IAS, c'est l'International AIDS Society, première société internationale indépendante de chercheurs et de médecins contre le VIH-SIDA.
Charlize Theron, qui est une actrice d'origine sud-africaine, s'implique énormément dans la lutte contre le sida et espère pouvoir débarrasser un jour son pays de ce fléau.
Elle est fondatrice du Charlize Theron Africa Outreach Project. Elle finance régulièrement des programmes de soutien aux communautés frappées par le virus. Elle encourage notamment le projet des Choma Dream Café, un réseau interactif destiné à l'éducation et formation des adolescentes. En 2017, elle passe du temps avec les filles de Soweto pour leur parler et les sensibiliser à ce sujet. L'actrice s'est dit incroyablement fière des efforts déployés aujourd'hui par l'Afrique du Sud contre la maladie. Je crois qu'ils sont pas extrêmement nombreux, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de financement dans ce sens, je crois. Florian, tu nous en parleras peut-être
oui,
tout à l'heure.
Sans financement, oui.
Des antirétroviraux pour tous et toutes depuis les objectifs du millénaire.
Il y a une amélioration, mais c'est pas encore ça. Avant la création en 2001 du Fonds mondial contre les grandes pandémies, VIH, SIDA, tuberculose et malaria, l'accès aux trithérapies était très faible.
En 2000, moins de 1% des personnes vivant avec le VIH dans les pays à faible revenu avaient accès aux médicaments alors qu'ils existaient au Nord.
Les programmes d'accès au traitement et à la prévention mis en place ont permis d'avoir en 2018 plus de 23 millions de personnes sous traitement. Une réalisation qui paraissait impossible au début du troisième millénaire. Tu confirmes, Florian, ces chiffres?
Ah, je confirme, bah oui, je pense que tu les as trouvés au bon endroit.
sur le site de Aide et l'ONU SIDA et un site belge.
Ce sont des belles références.
Donc tout le monde est d'accord, tout le monde a les mêmes, donc ça va. En 2018, la couverture mondiale des personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral était de 62%.
Ce qui signifie aussi que 38% des personnes séropositives n'ont pas accès à un traitement vital pour leur survie.
Eh oui. L'accès au traitement est en effet discriminant. Dans certaines zones de l'Afrique, comme dans celle de l'Ouest, c'est moins de 20% des personnes vivant avec le VIH qui ont un traitement, d'après un récent rapport de Médecins sans frontières, intitulé « Le prix de l'oubli ». La riposte n'est donc pas globale. Tant qu'elle ne sera pas égale et mondiale, il n'y aura pas de fin d'épidémie, je pense. Enfin, en effet, avec les progrès réalisés par la recherche, cette fin d'épidémie dépend maintenant principalement de l'égal accès au traitement de l'humanité tout entière.
En France, c'est comment ?
Malgré une baisse encourageante du nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité en 2018,
7%,
et la baisse des contaminations dans certaines populations clés,
16% entre 2013 et 2018 chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.
Les chiffres publiés par Santé publique France en octobre 2019 montrent également une réalité alarmante. Avec une augmentation de 38% de nouvelles découvertes chez les HSH, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, nés à l'étranger, et une stagnation chez les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger,
Aide et nous.
Dénonçons la dangerosité des politiques d'accueil migratoire dont je crois que tu vas nous parler plus longuement, actuelles, qui laissent des milliers de personnes sans autre accès aux outils de prévention et de dépistage que ceux fournis par les associations.
Enfin, quels sont les modes de contamination ?
Eh bien, d'après une étude menée en Belgique pour les chiffres de 2017, montre que le mode de contamination probable est connu pour 71% des personnes diagnostiquées cette même année, soit 636 personnes. 48,6% ont été contaminés par des rapports sexuels entre hommes, les HSH, 48,3% par des rapports hétérosexuels, 94% des femmes et 28% des hommes, 1,1% par usage de drogue injectable, 0,7% par transmission mère-enfant. Alors ça, ce sont les chiffres belges, donc sur 71%, soit 636 personnes, dont on pouvait être à peu près sûr de connaître les modes de contamination. Alors pour la France, enfin, est-ce que tu es d'accord avec ces chiffres ? Pour la Belgique, tu peux pas savoir, enfin, tu sais pas, je suppose. Mais pour la France, est-ce que c'est pareil, Florian ?
Alors après, on est toujours effectivement pour la France sur les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire que les deux principaux, enfin les deux groupes de personnes les principalement concernées par l'épidémie et par les nouvelles découvertes de séropositivité, c'est effectivement les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes et les personnes nées à l'étranger. Donc on retrouve et donc qui ont souvent des rapports hétérosexuels majoritairement. Voilà, il y a quelques cas de contamination par voie injectable, donc pour les personnes qui s'injectent la drogue. Après transmission mère-enfant, les Belges sont plus précis que nous parce que j'ai pas d'infos en France sur les transmissions mère-enfant, qui est quand même très 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 faible aujourd'hui.
Qui est très faible, encore. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui pose problème, bien entendu. C'est vrai que naître avec le sida, comme on dit vulgairement, est quelque chose qui est épouvantable. Mmh. Bon, 0,7%, on va dire que c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant quand on pense au nombre d'enfants que ça donne.
Ouais. Après, c'est quelque chose qui est de moins en moins présent, puisque le traitement, enfin l'efficacité des traitements est quand même haut aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une femme qui est séropositive sous traitement qui a une charge virale indétectable ne transmettra pas le virus à son enfant. Voilà.
Depuis combien de temps, en fait, on a ce constat avec ces traitements ? Ça fait quelques années maintenant, hein, c'est ça, mais c'est quand même...
Alors, effectivement, alors on sait qu'une personne séropositive sous traitement qui est en charge virale indétectable ne transmet pas le virus. Ça, on le sait depuis 11 ans maintenant, depuis 2008. Hein. C'est le docteur Hirschel, un Suisse, qui a montré ça.
D'accord.
Ça met le temps à se diffuser déjà chez les personnes séropositives elles-mêmes, qui parfois ne savent pas forcément... Que ça fonctionne. Et puis dans la population générale, alors là, on en est encore très très loin d'une généralisation. Voilà, mais il faut, enfin voilà, c'est il faut pas avoir peur. Enfin, ça fait le lien aussi avec la sérophobie. Enfin,
oui, bien
c'est,
sûr.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Hein. Voilà, enfin, on a encore peur. Certaines personnes ont encore peur des personnes séropositives parce que tout un tas de représentations sur qui elles sont, sur oui. Elles vont transmettre tout ça, alors que finalement non, sous-traitement en charge virale indétectable, en fait c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de virus en fait dans le sang qui circule pour pouvoir être transmis. Voilà, avec ça il y a vraiment zéro risque de contamination.
D'accord.
Sous-traitement.
Alors Anne.
Alors on a parlé un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même pas le plus grand flot des transmissions possibles mère-enfant. On pourrait parler de l'autre qui est en nette baisse, si j'ai bien compris, l'usage des drogues injectables, comme on dit.
Alors, on parle toujours de la France ?
On parle toujours
parce
de la
là,
France.
Parce que là, pour le coup, on a des tendances beaucoup moins positives sur le reste du monde.
Alors en monde, ça baisse, alors, si j'ai bien...
En monde, je ne suis pas sûr que ça baisse. En tout cas, il y a des régions du monde où la situation est assez alarmante sur les personnes qui consomment des drogues par voie injectable, hein, principalement quand même, notamment les pays de l'Est, en Europe, Ukraine, Russie, où là, la situation est assez difficile. Et en plus, on n'a pas forcément de chiffres officiels. Puisque dans certains pays, les drogués n'existent pas, officiellement. Donc forcément, on ne va pas remonter les chiffres.
Les homosexuels non plus dans les mêmes pays, d'ailleurs.
Voilà, en fait. Tout à fait, ça fait... Mais en général, on est un peu sur les mêmes politiques. Hein, c'est-à-dire que... en fait, ce qu'on a... On a un petit peu dit, effectivement, sur les modes de contamination, mais sur les personnes qui sont concernées par le VIH, on est vraiment sur certaines personnes, en fait. Et en général, c'est les plus discriminées. En France, elles sont discriminées parce que... Politique migratoire, mais je pense qu'Arnaud en reparlera après. Voilà, HSH, c'est pareil, les discriminations homophobes, transphobes, elles existent.
Alors que je l'ai vu tout à l'heure, en Belgique, 48,3% des rapports hétérosexuels. Donc cela, on n'en parle jamais. Il y a des hétérosexuels qui...
Oui, mais... Ça, c'est effectivement la sexualité, le mode de contamination. Mais... La majorité des contaminations hétérosexuelles sont parmi les personnes qui sont nées à l'étranger, ou en tout cas qui évoluent dans un contexte où il y a des personnes nées à l'étranger, en fait. Donc, c'est pas la population générale. Enfin, il faut bien redire que... On a tendance à dire que, voilà, le VIH concerne tout le monde et qu'on est tous concernés par le VIH. Mais en fait, oui et non, parce que ça concerne quand même beaucoup plus les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les personnes nées à l'étranger, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. Tu l'as dit, Anne, tout à l'heure, il y a une augmentation des HSH homosexuels, des découvertes de séropositivité. Assez inquiétante, quand même. Enfin, en tout cas, pour la France, c'est assez inquiétant. Voilà. Alors que dans la population, finalement, on va dire... cis, blanche, hétérosexuelle, le VIH est franchement pas une question majeure.
D'accord. Alors bon, donc, parle-nous peut-être un peu plus justement de ces chiffres qu'on a lus tout à l'heure, des augmentations dans certaines couches de la population, des baisses dans d'autres, sans oublier évidemment que peut-être y a-t-il plus de personnes qui font un test pour savoir si oui ou non elles sont atteintes, et ce qui évidemment augmente les chiffres naturellement, alors qu'en fait c'est plutôt bien qu'ils viennent vous voir aide ou qu'ils aillent à l'hôpital.
Alors en fait, enfin effectivement, là on a des données, hein, les moins 7% de découvertes, les moins 16%, les moins 7% de découvertes tout mode de contamination confondu, les moins 16% chez les HSH, il faut les relativiser, ces chiffres. Effectivement, parce qu'en fait, on ne parle que des nouvelles découvertes de séropositivité, donc c'est les personnes qui se sont fait dépister. Ce qui ne veut pas dire que finalement, les contaminations, elles baissent aussi. Puisqu'il peut y avoir plus de contaminations, et finalement, les personnes dépistées ont moins, en fait, donc on en trouve moins. Donc voilà, il faut relativiser en général les chiffres, on les rend que sur les nouvelles découvertes.
Donc vous, chez Aide, vous constatez qu'il y a plus de gens qui viennent se faire dépister par rapport aux années précédentes ?
Alors ça, j'ai pas forcément de données par rapport aux années précédentes. Après, je sais que l'outil de dépistage rapide, hein, le TROD, donc on fait chez Aide, mais pas que, c'est plutôt un outil facilitant quand même pour les personnes qui sont les plus concernées, hein, les personnes qu'on a citées jusqu'à maintenant. Voilà, plus simple que finalement d'aller en CJ, enfin dans un centre de dépistage ou chez son médecin ou en labo, puisqu'on est encore face à des discriminations. Sur du jugement par rapport à la sexualité, par rapport aux pratiques sexuelles, par rapport par rapport au mode de vie dans leur ensemble, en fait. Voilà, on est vraiment dans un cadre associatif bienveillant, non jugeant, qui fait que ce recours au dépistage est quand même facilité. Après, plus ou moins, ça c'est difficile à évaluer, hein. On est sur des niveaux assez stables chez Aide. Voilà.
Mmh. D'accord.
Après, peut-être faire un lien, parce que là on parle beaucoup de l'international, la France, peut-être en Pays de la Loire, comme on est en Pays de la Loire, on est quand même sur des chiffres de nouvelles découvertes qui restent stables pour le coup. Il n'y a pas de baisse impressionnante, il n'y a pas de hausse non plus impressionnante, on est vraiment aux alentours de 150 découvertes.
Et le profil de ces personnes qui découvrent donc leur séropositivité, il reste inchangé lui ou il évolue ?
Bah, il évolue pas énormément.
Parce que j'ai cru entendre que les jeunes aujourd'hui, avec les nouveaux traitements, avaient une tendance, ou a eu en tout cas à un moment tendance à moins se protéger qu'à la fin des années 90 ou des années 2000. Est-ce que c'est toujours vrai ?
Alors, la question des jeunes, on pourrait en parler longtemps. En fait, on n'est pas... Alors, oui, il y a une augmentation des séropositivités chez les jeunes, relative, mais elle concerne les jeunes qui font partie justement des populations clés. Enfin, l'ONU-SIDA, Aide, on reprend ce terme, c'est les populations clés. Donc voilà, c'est pas les jeunes de la population générale.
D'accord, oui, je comprends.
C'est les jeunes HSH, effectivement, on constate une augmentation. Les jeunes nés à l'étranger, voilà, et HSH encore plus. Voilà, enfin, c'est vraiment les jeunes qui sont. Enfin, vraiment, et qui appartient aux populations.
D'accord.
C'est pour ça qu'à Aide, on continue à ne pas aller dans les lycées et les collèges pour faire de la prévention, parce que voilà. Mais d'autres s'en chargent très bien, et il faut aussi le faire. Enfin, il y a un côté prévention, effectivement, chez les jeunes qu'il faut mener. Voilà, et il y a aussi l'autre partie vraiment centrée sur le cœur de l'épidémie pour arriver à cette fin d'épidémie quand même qui tarde un petit peu, alors qu'on a tous les moyens pour le faire. Mais...
Oui, parce que normalement, là, 2030, c'est dans 10 ans.
Alors effectivement, l'objectif de l'ONU-SIDA, c'est 2030. Alors, 2030, c'est fin d'épidémie, mais parce qu'en fait, on a des objectifs. Hein. L'ONU-SIDA a fixé trois objectifs. C'est le 90-90-90, hein, qui veut dire qu'il faudrait arriver au fait que 90% des personnes séropositives dans le monde connaissent leur statut, donc sont dépistées séropositives, que 90% de ces personnes qui connaissent leur statut ont accès à un traitement, et que 90% des personnes qui ont accès au traitement soient en charge virale indétectable. Voilà. Pour arrêter la dynamique en fait de l'épidémie.
Et est-ce qu'on a une idée d'où on en est ?
Alors, en France, on a les deux derniers. On a les
c'est
deux derniers.
C'est-à-dire ?
Donc, on est au-delà des 90% pour les personnes qui connaissent leur statut, donc les personnes séropositives sous traitement. Donc il y a plus de 90% des personnes séropositives qui ont accès au traitement, et il y a plus de 90% des personnes qui sont sous traitement qui sont en charge virale indétectable. Par contre, on n'a pas le premier. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 90% des personnes séropositives qui sont dépistées. Ça veut dire qu'on a des personnes qui connaissent leur statut et des personnes qui sont séropositives mais qui ne le savent pas. Donc ça, c'est environ 23 000 personnes encore en France. Voilà. Après, dans le monde, on n'y est pas du tout.
Comment est-ce qu'on calcule 90% d'un nombre qu'on ne connaît pas ?
Alors, c'est les études, c'est les scientifiques qui extrapolent un peu les chiffres. Après, on arrive quand même à évaluer parce qu'on a des données, enfin on a des données de dépistage en fait. Il y a des gens par exemple qui vont se faire dépister, qui ne reviennent jamais chercher leurs résultats. Par exemple, c'est un exemple. Donc bah forcément le labo ou le médecin, il va savoir que la personne est séropositive, mais la personne elle le saura jamais parce que elle sera jamais revenue chercher son résultat. Voilà. Puis après, il y a des systèmes
d'extrapolation, j'imagine.
Je sais pas comment ça fonctionne, hein, mais
Non, voilà. Parce que ça, c'est une question qui m'a déjà été posée. Mmh. Ouais, ça va, votre truc, là, mais comment vous pouvez savoir on ne sait pas combien il y en a.
Après... on ne peut jamais vraiment savoir. Enfin, voilà, c'est...
Là, non. Forcément.
Après, tout ce qu'on sait, c'est que l'épidémie est encore dynamique et que... Et qu'il faut arriver.
Et alors, est-ce que tu sais si c'est une tendance européenne, disons, au moins, cette histoire des 90% respectés ?
Alors, je connais pas après les chiffres européens. Après, dans plusieurs pays en Europe, quand même, on est plutôt arrivé aux 90, mais sur la fin. C'est vraiment le premier 90 qui reste assez difficile, en fait, à arriver. On n'est pas forcément loin du 90, mais on n'y est pas. Et c'est quand même symbolique, c'est 90, 90, 90. Et tant qu'on n'y est pas, il faut continuer à se faire dépister.
Donc il faut continuer à communiquer. Est-ce que c'est facile de communiquer en France à ce propos ?
Alors si on fait référence à une certaine campagne de l'Agence de santé publique, je ne sais plus, c'était il y a 3 ans, en 2016 il me semble,
ouais.
Sur Angers par exemple, mais pas que sur Angers, où on avait des affiches avec deux hommes... plusieurs affiches avec deux hommes qui s'enlaçaient et qui ont été retirés de la circulation par certains maires en France, dont le maire d'Angers.
Absolument, des affiches très convenables, il faut quand même
très convenables, le rappeler, tout à fait, qui faisaient mention quand même de tous les outils qu'on a aujourd'hui à disposition pour mettre fin à l'épidémie VIH. Voilà, donc c'est pas forcément facile puisqu'on est encore confronté à...
Un refus, une incompréhension,
des représentations de cette bien-pensance un petit peu de ce qui est, enfin je sais pas, de ce qu'est la vie des gens, enfin et des personnes qui s'occupent de toute façon de ce que fait l'autre, alors que
absolument,
il faudra bien s'occuper de ce qu'on fait soi. Et
alors en même temps, nous on en a beaucoup parlé, et puis c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, mais ça reste quand même plutôt anecdotique, parce que je crois que c'était seulement 3 villes en France, même si malheureusement Angers fait partie de ces 3-là. Donc forcément que ça a un impact, mais le discours est quand même passé sur la grande partie du territoire, malgré tout.
Ouais. Après, ce qui est... Alors, de communiquer dans les populations clés, c'est plutôt... facile. Après, c'est de communiquer en population générale, finalement, en visibilisant les populations clés.
Bien sûr, oui.
C'est ça qui est aussi difficile, parce que tout le monde ne va pas se reconnaître forcément dans la campagne, et on va avoir accès. Mais bon, voilà, je dis que ça reste... c'est à nuancer quand même, effectivement. Il y a des exemples comme ça qui continue et qui, à mon avis, il y aura encore des choses. Enfin, ça arrivera encore.
Oui, et puis tout le monde ne se reconnaît pas forcément sur un mannequin superbe qui vend un sac Vuitton, par exemple. Ou Monoprix.
Je ne sais pas si on est au même degré de comparaison, mais...
Mais disons qu'on ne se reconnaît pas tous dans les affiches tout le temps. Donc, ça a bien marché, finalement, cette fameuse campagne-là.
Bah au final, oui, finalement, comme on a critiqué, forcément, ça a fait le buzz.
Exactement, finalement, on a plus parlé peut-être avec ces 3 communes-là que si c'était rien passé.
Étrangement, le buzz est important. Donc, vos moyens de communication à vous aident, entre autres. Par exemple, on a les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence aussi, qui font énormément d'actions, totalement différentes des vôtres, mais dans le même but, finalement, d'arriver à ce que les gens arrêtent d'être séropositifs ou l'étant arrête de contaminer les autres, en fait.
Pas arrêter d'être séropositifs, mais
non, enfin, qu'il n'y en ait pas d'autres qui soient, qui deviennent séropositifs, ouais. Et que ceux qui le sont ne contaminent plus, ne soient plus en mesure de contaminer d'autres personnes. Mais vos actions, alors, qu'est-ce que vous faites particulièrement ?
Alors, nous, on a des actions ciblées, c'est-à-dire que voilà, je vous ai parlé des populations clés, on est là-dessus, donc on va vers les personnes, là où elles sont en fait, dans leur environnement. Donc ça passe, alors sur la partie hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, on va dans les saunas par exemple, hein, les lieux de consommation sexuelle, sauna, bar, boîte gay, principalement. Ensuite, on va aussi dans les établissements commerciaux pour les personnes en Chine, on appelle les personnes migrantes, mais les personnes nées à l'étranger. Voilà, sur les foyers d'accueil. On a fait une action en gymnase à Nantes, par exemple. Il y avait justement les personnes migrantes qui étaient logées dans un gymnase. Donc, on a fait une action, voilà, une action santé, dépistage. Là-bas, on a des actions de rue aussi, c'est-à-dire qu'on se met dans la rue passante. Alors on cible quand même les endroits où on se met. Voilà, en général, on cible de toute façon, voilà, les consommateurs de produits psychoactifs, donc de drogue. Voilà, les personnes nées à l'étranger, migrantes, précaires. Voilà, on se met là et ça fonctionne plutôt bien. Donc on va vraiment vers les gens, quoi. Alors, on a quelques permanences où les personnes viennent nous voir, mais on est quand même dans cette volonté d'aller vers les personnes et aller discuter sexualité, aller dépister.
Voilà, et ce sont des actions nationales, aides, ou des actions locales ou, qui se font quand vous profitez des fêtes et des moments, j'imagine.
Alors, aide est une nationale. Après, on a des antennes. Je vais faire simple, on a des antennes localement où finalement c'est les militants localement qui décident de quelles actions ils vont faire, hein, en fonction des partenaires qu'on a aussi, en fonction des données qu'on a et des évolutions aussi de l'épidémie qu'on a en local. Après, il y a un cadre qui est fixé par le national, des orientations en tout cas, et on s'inscrit dans ces orientations. Mais sinon, en local, on est plutôt libre de faire notre agenda comme on veut, notre agenda d'action.
Oui, la population n'est pas la même de toute façon, du nord au sud, les habitudes.
Tout à fait. Puis les partenaires sont pas aussi les mêmes, donc on travaille aussi beaucoup en partenariat. On fait pas ça non plus tout seul. Parfois on le fait, on a tendance à essayer quand même d'avoir des partenaires aussi pour aller.
Y a d'autres gens que nous, la Pride par exemple, qui vous demandent de venir. Il y a d'autres manifestations qui vous demandent de venir.
Alors manifestations. Alors après oui, en termes d'événements.
Oui.
Ouais, des événements dans les communautés en général qu'on cible. Il y a certains événements effectivement, on nous demande d'être présent pour la prévention. Après il y a certains établissements aussi. Hein. Par exemple les foyers d'accueil, c'est vrai que c'est aussi eux parfois qui nous demandent d'intervenir. Donc après on discute, voilà, on voit comment on peut intervenir, mais c'est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que les partenaires peuvent nous demander, mais nous aussi, quand on voit qu'il y a un besoin à un moment donné, on va aussi solliciter un partenariat avec telle ou telle structure ou telle ou telle personne pour pouvoir intervenir auprès des personnes.
D'accord.
Bien.
Sinon, localement et de façon nationale, quand même, le mot du 1er décembre, c'est quand même le dépistage en France. Donc il y a des semaines de dépistage, des quinzaines de dépistage qui se mettent en place bientôt en France. En Pays de la Loire, ça commence le 25 novembre jusqu'au 1er décembre. Donc c'est l'occasion de se faire dépister aux endroits habituels. Il y a quelques actions qui seront, je pense, mises de façon exceptionnelle.
On aura le programme demain ou après-demain, je crois, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc je ne sais pas si vous pourrez le mettre sur le site de Quasar ou.
Si, on va l'ajouter.
Ou pas. En tout cas, si vous voulez les infos, il faut aller sur le site du Corevi. Donc Corevi, Corevih. Corevi Pays de la Loire, et vous allez tomber sur les infos. Voilà. Si vous voulez une action spécifique là-dessus.
D'accord, bon, bah, on va se passer un peu de musique, pour, principalement pour nous autres, les vieux. Donc là, parlez entre vous, le temps que je démarre le truc, parce que je fais tout.
Alors écoute, juste après ce petit intermède musical, on parlera de la santé des personnes exilées. Voilà, il y a des idées reçues, on va essayer d'en parler justement, hein, et puis de dire que ce sont de fausses idées. On peut rappeler qu'on est sur l'antenne de Radio Gribouille, 101.5 FM.
Radio G maintenant, mon vieux.
Tu parlais des vieux, donc tu vois.
Ah, ça y est, c'est ça.
Oh là là, c'est ça. On ne m'écoute pas, la direction. Radio G. Et à l'écoute de Quasar on the Air jusqu'à 21h. Et Anne nous passe un petit morceau musical que nous allons entendre dans quelques instants.
C'est parti.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window, didn't know my own face, oh brother. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia.
Je vous entends d'ici vous dire « Oh non, pas les streets of Philadelphia quand même !» Non mais je vous assure, en fait, j'ai essayé de... Je ne connaissais pas la chanson de Manu Solo, je suis désolée, on la passera une fois, on la passera en mars. Et donc, voilà pourquoi streets of Philadelphia, voilà. Bon. Et puis aussi, accessoirement, parce que, en fait, j'ai fait donc une petite série de 10 dates. Les 10 dates. Alors, les 10 dates, on va aller vite. 1981, première alerte. Le 5 juin, l'organisme américain de surveillance et prévention des maladies signale une forme rare de pneumonie chez des jeunes homosexuels californiens. C'est la première alerte sur le sida. On ignore alors tout de cette maladie qui n'a pas encore de nom. L'organisme américain de surveillance et de prévention des maladies, le CDC, apporte ensuite les mêmes infections opportunistes chez les utilisateurs de drogues injectables, fin 81, des hémophiles ayant recours à des transfusions sanguines, fin mi-82, des Haïtiens résidant aux États-Unis, mi-82 aussi. On parle de maladie des 4 H, homosexuels, héroïnomanes, hémophiles, haïtiens. Le terme AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, apparaît en 82, lui aussi, en français, SIDA, pour syndrome d'immunodéficience acquise. 83, découverte du virus. On va vite. En janvier 83, à l'Institut Pasteur à Paris, les chercheurs Françoise Barré-Simoussi et Jean-Claude Sherman, sous la direction de Luc Montagnier, isolent un nouveau virus qu'ils baptisent LAV, ce qui pourrait être impliqué dans le sida. Le 23 avril 84, le secrétaire d'État américain à la santé, Margaret Heckler, annonce que le spécialiste américain des rétrovirus, Robert Gallo, a trouvé la cause probable du sida, un rétrovirus baptisé alors HTLV3. Il s'avère ensuite que ces deux-là étaient le même virus. Il sera baptisé en mai 86 virus de l'immunodéficience humaine ou VIH. En 87, AZT et Accor. Le 20 mars 87, le premier traitement antirétroviral AZT, zidovudine, je m'étais juré de le dire vite, mais j'y suis pas arrivé, est autorisé aux États-Unis. Le traitement est coûteux et les effets secondaires nombreux. Je crois qu'on a tous eu des amis à cette époque-là qui ont subi ces effets secondaires. Le 31 mars, un accord est signé entre la France et les États-Unis pour mettre fin au contentieux sur l'antériorité de la découverte du VIH. Ils se disputaient là-dessus. En 86, le prestigieux prix américain Lasker distingue Montagnier pour sa découverte du virus du sida. En 88, la première journée mondiale, donc le 1er décembre 88, célébré pour la première fois la journée mondiale sous l'égide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En juin 89, on estime à plus de 150 000 les cas de sida dans le monde. Début 90, les étoiles tombent, si j'ose dire. L'acteur américain Rock Hudson est mort en 85. Au début des années 90, le chanteur britannique Freddie Mercury, le danseur chorégraphe Rudolf Nureyev. Par exemple, en 94, le sida devient la première cause de décès parmi les Américains de 25 à 44 ans. 95-96, début des trithérapies. C'est le début des combinaisons de différents antirétroviraux, les trithérapies qui se révèlent très efficaces. En 96, aux États-Unis, pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le nombre de personnes mortes du sida décline. 99, un rapport de l'OMS et d'ONU SIDA publié en novembre 99 évalue à 50 millions les personnes infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie. 16 millions en sont mortes, l'Afrique est le premier continent touché avec 12,2 millions de séropositifs. 2001, les médicaments génériques. 2008, le prix Nobel de médecine attribué à Françoise Barré-Simoussi et Luc Montagnier. Pour la découverte du VIH. Et oui, parce qu'à ce moment-là, on a découvert qu'il y avait une femme aussi dans ce laboratoire. 2012, traitement préventif. Pour la première fois, un traitement préventif, un cocktail antirétroviral, le Truvada, dont on a tant parlé, est autorisé aux États-Unis afin de protéger des personnes saines risquant une contamination. Pour la suite des découvertes, on va en reparler un petit peu ensuite, puisque ça nous c'est plus proche de nous. Voilà pour les 10 dates principales du sida jusqu'en 2012. Mais là, on est dedans maintenant, nous, hein, avec le Truvada. Après, le reste, on s'en sert encore. Donc, maintenant, on va parler, Arnaud, plus en détail. Tu oui. vas nous...
Eh bien, je vais vous parler de... Justement, on va revenir sur cette question avec la santé des exilés dont parlait aussi Florian tout à l'heure.
Alors, ce soir, à l'occasion de cette émission spéciale consacrée avant l'heure au 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida, Arnaud a choisi de nous parler de la santé des exilés et de leur vulnérabilité face au VIH notamment. Alors, justement, Arnaud, quels sont généralement les problèmes de santé, bon, tout problème confondu, bien sûr, des réfugiés et des demandeurs et demandeuses d'asile?
Eh bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les problèmes de santé des exilés en général sont semblables à ceux du reste de la population. Même s'il arrive que la prévalence en soit plus élevée dans certains groupes, comme on va le voir pour le VIH dans un instant, chez ceux qui sont nouvellement arrivés, demandeuses ou demandeurs d'asile, les problèmes de santé les plus fréquents sont les blessures accidentelles, l'hypothermie, les brûlures, les problèmes cardiovasculaires, les complications de la grossesse ou de l'accouchement, le diabète et d'hypertension. Les femmes sont, pour leur part, confrontées à des difficultés particulières, touchant notamment à la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, à la santé sexuelle et reproductive et aux violences. L'exposition de ces personnes aux risques associés aux mouvements de population, hein, troubles psychosociaux, problèmes de santé reproductive, mortalité néonatale plus élevée, troubles nutritionnels et exposition à la violence, accroît leur vulnérabilité face aux maladies transmissibles et non transmissibles.
L'idée très répandue que les exilés apportent des maladies est-elle juste ?
Alors j'ai le sentiment, Mohamed, que tu veux dénoncer une fake news et tu as raison, autant le dire tout de suite, même si l'idée qu'il existe un lien entre l'émigration et l'importation de maladies infectieuses est répandue, cette association est loin d'être juste. Les demandeurs d'asile et réfugiés sont exposés principalement aux maladies infectieuses courantes en Europe sans lien avec les flux migratoires. Et concernant la thématique de ce soir sur les maladies et infections sexuellement transmissibles, le rapport de l'Agence nationale de recherche sur le sida, l'ANRS, et de l'Institut de recherche pour le développement, issu d'une enquête très détaillée reprise dans un ouvrage paru en 2017 qui s'intitule « Parcours de vie et santé des Africains immigrés en France » sous la direction d'Annabelle Desgrés-Duloup et France Lert, alors aux éditions La Découverte pour aller jusqu'au bout, nous confirme cette réalité pour les exilés du continent africain. Non seulement ces personnes n'ont pas quitté leur pays, souvent au risque de leur vie, pour être soignées en France, car soit elles n'avaient pas connaissance de leur maladie ou d'être porteuses d'un virus, par manque d'accès à des solutions de dépistage dans leur pays, mais c'est très souvent après leur arrivée qu'elles ont été infectées. Oui, vous avez bien entendu, c'est en arrivant ici. Voilà qui dément ce que l'on peut lire sur les publications d'extrême droite par exemple, mais pas que. Après un travail de plusieurs années auprès de plus de 2400 hommes et femmes venant d'Afrique subsaharienne, dont 926 personnes vivant avec le VIH, 779 porteuses d'une hépatite B et 763 n'ayant aucune de ces deux infections, l'étude de l'ANRS permet de tirer un premier constat. Dans près de la moitié des cas, 44%, les hommes africains ont été infectés par le VIH après leur arrivée, ce qui est aussi le cas d'un tiers, 31% des femmes. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Mohamed, mais l'hiver dernier, alors que nous étions à une réunion d'association LGBTI+, à Paris, organisée par l'ARDIS, l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour, son président de l'époque, Thierry Dumoulin, nous apprenait qu'en Île-de-France, c'est dans les 4 mois qui suivent leur arrivée que les jeunes exilés contractent une MST ou une IST.
La vie parisienne n'est pas forcément la même en province. Quel que soit l'endroit où ils vivent, les exilés sont une population particulièrement vulnérable, n'est-ce pas, Arnaud ?
Assurément, durant les années d'une procédure de demande d'asile ou ensuite, la vie d'un réfugié sans travail, sans logement stable, sans même le RSA pour les moins de 26 ans, l'exilé est dans une situation de forte précarité administrative et sociale. France Lert nous indique, dans une conférence du 12 juillet dernier que vous pouvez voir sur YouTube, que cet état de précarité dure en moyenne 7 ans pour un Africain et 6 ans pour une Africaine exilée. L'enquête de l'ANRS nous indique que la vulnérabilité face au VIH, notamment, est très liée aux conditions de vie. Elle dit ceci. Les années de précarité sont aussi des années où la sexualité est plus à risque. Toutes choses égales par ailleurs, les hommes et les femmes ont plus de relations sexuelles occasionnelles les années où ils n'ont pas de logement stable, soulignent les auteurs du rapport. C'est particulièrement frappant pour les femmes et les jeunes hommes qui, en situation de précarité, sont souvent exposés à des rapports non consentis ou une sexualité transactionnelle, en échange d'un hébergement, d'une aide matérielle ou par peur d'être expulsés. Julie Pantier, démographe qui a participé à l'étude, nous dit « Les années où les femmes sont sans logement stable apparaissent associées à un risque de relations transactionnelles multiplié par 8 ».
C'est donc un public vers lequel les associations de lutte contre le sida et toutes les maladies et infections sexuellement transmissibles doivent faire de la prévention.
Absolument, Mohamed. Les personnes en détresse, avec un passé lourd, qui ont dû fuir pour des raisons politiques, des catastrophes naturelles graves ou à cause d'un état de pauvreté sans futur, ou encore qui ont dû fuir un pays dans lequel elles étaient menacées, ont été battues, torturées en raison de l'orientation sexuelle et ou affective, c'est-à-dire celle que nous accompagnons au groupe droit des étrangers LGBTI+, de Quasar, parfois sans maîtrise du français et avec des cultures complètement différentes, sont très vulnérables avec un risque d'exposition aux maladies sexuellement transmissibles accru et un accès plus difficile aux informations et aux soins. Et en même temps, ce public n'est pas le plus facile à approcher et à informer. La situation de ces personnes les oblige à faire preuve déjà d'une grande méfiance quand il s'agit de parler de sexualité avec des volontaires d'associations qu'elles ne connaissent pas. La langue peut être un frein pour l'accès à l'information. La culture, les coutumes, les tabous, la religion obligent à adapter les messages de prévention. Puisque nous avons la chance de recevoir Florian de l'association Aide Anjou, nous en reparlerons peut-être avec lui dans un instant.
Et pour ceux et celles qui sont déjà infectés, que faut-il faire pour assurer la meilleure prise en charge ?
L'OMS recommande vivement de proposer et d'effectuer des bilans médicaux afin de garantir que tous les réfugiés et migrants ayant besoin d'une protection sanitaire aient accès aux soins de santé. Ces bilans médicaux devraient être effectués pour les maladies transmissibles, mais aussi non transmissibles, hein, en respectant les droits fondamentaux des personnes exilées et leur dignité. Bien évidemment, les résultats du dépistage ne doivent jamais être utilisés comme raison ou justification de l'expulsion. Et l'on sait qu'un dépistage systématique, voire obligatoire, dissuade les exilés de demander un examen médical et compromet l'identification des patients à haut risque. Enfin, l'OMS ajoute que le diagnostic et le traitement de maladies transmissibles, mais aussi non transmissibles, telles que le diabète et l'hypertension, peuvent empêcher ces maladies de s'aggraver et de mettre la vie des personnes en danger.
Donc, que pensez-vous de la série de mesures annoncées par le gouvernement au début de ce mois, dont Anne et moi avons parlé il y a 15 jours de cela, et plus particulièrement du délai de carence de 3 mois pour bénéficier de la PUMa, Protection Universelle Maladie, qui pourrait être appliquée aux demandeurs et demandeuses d'asile prochainement. Ça va compliquer un peu plus l'accès aux soins.
Bien évidemment, Mohamed, même avec une couverture maladie accessible dès l'enregistrement de la demande d'asile, on sait que beaucoup de demandeuses et demandeurs d'asile n'accèdent pas aux soins. Par méconnaissance, par manque de disponibilité des praticiens, parce que la langue fait barrage. Beaucoup ne sont pas pris en charge déjà aujourd'hui, alors que l'OMS indique que l'accès rapide aux soins peut entraîner la guérison et éviter ainsi la propagation des maladies. Il est donc dans l'intérêt des exilés et du pays d'accueil de veiller à ce que la population ne soit pas inutilement exposés à l'importation d'agents infectieux, et aussi que les exilés soient informés très rapidement des risques de contracter une MST ou une IST afin qu'ils se protègent et ne participent pas à la propagation des maladies. En plus d'être une mesure qui va à l'encontre de la santé publique, qui ne va qu'accroître la fréquentation des services d'urgence déjà surchargés, cette mesure manque cruellement d'humanité. Enfin, la conclusion des auteurs de l'enquête publiée par la NRS est implacable, je cite « La première chose dont les immigrés ont besoin pour prendre soin d'eux-mêmes et se protéger du VIH et autres risques sexuels, c'est de pouvoir y penser. Cela n'est possible qu'une fois libérés de l'extrême insécurité, de l'angoisse liée à des démarches administratives lourdes et à l'issue incertaine et du souci d'avoir un toit pour dormir. On ne peut pas dire qu'en ce moment, les décisions prises aident les exilés à prendre soin d'eux. Enfin, le sida est encore un révélateur social, expression du fondateur de l'association Aide, Daniel Defer, comme on peut le lire justement sur le site de Aide. C'est un révélateur des inégalités dans l'accès au droit, à la santé, à une vie épanouie. Attenter aux droits des personnes rejetées, discriminées, stigmatisées, sont autant de choix politiques qui font le lit du VIH. Et je vais justement laisser le mot de la fin à France Lert, en qualité de chercheuse à l'INSERM, sociologue, économiste et épidémiologiste, spécialiste du VIH, qui réagit par rapport aux conditions d'accueil et de traitement des exilés aujourd'hui en France et qui s'interroge sur son action dans ce contexte. Écoutons-la.
C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est, même dans notre travail concernant le VIH, on est interpellé par la situation des migrants, des migrants qui arrivent à l'heure actuelle, dont l'existence même est déniée par les autorités publiques, et qui ont comme politique, quand on regarde ce qui se passe dans Paris même, aux portes de Paris, d'avoir comme stratégie le harcèlement des conditions de vie quotidiennes de cette population. Pas d'eau, pas de toilettes, pas d'hébergement. Et je pense que ça nous interpelle dans notre travail de recherche. Certes, on a travaillé, mais quel peut être le rôle de la recherche ici ? Je sors du VIH, encore que c'est une question qui concerne particulièrement cette population, avec les usages de drogue et du travail sexuel, du travail de sexe transactionnel. C'est un questionnement éthique. Est-ce que la recherche doit aller dans cette population alors qu'on est dans cette situation de politique de harcèlement ?
Volontaire de Aide Anjou, as-tu un commentaire, une information à ajouter au sujet de la spécificité de ce groupe que sont les exilés face à ces risques sexuels ?
Alors, je pense qu'Arnaud et moi-même, vous avez cité pas mal de choses. Bah, effectivement, oui, il faut vraiment démonter cette idée reçue qui est absolument infernale de se dire que les personnes viennent en France exprès pour se faire soigner ou parce qu'il y a la maladie qui est là. C'est pas vrai, voilà, c'est pas vrai du tout. Non, il faut, enfin, faut vraiment démonter vraiment ce truc-là.
Mais on dit toujours qu'en Afrique, il y a beaucoup plus de gens qui sont séropositifs. Ce serait pas pour ça que...
Ah bah non, bah après, y a, je pense qu'on peut... Il <Alors, rire> y a plein de raisons qui peuvent être évoquées, mais...
Peut-être as-tu raison, Anne. En tout cas, parmi les demandeurs et demandeuses d'asile qui arrivent, sont quand même des gens souvent très jeunes. Et force est de constater, au vu de ces chiffres, qu'en effet, c'est après leur arrivée, la plupart du temps, qu'ils sont contaminés, et pas avant.
Et alors effectivement et ça fait enfin on peut aussi lier ça aussi avec avec toutes les annonces hein, récentes du gouvernement sur les droits de enfin le sur la réduction du de enfin le délai de carence qui est augmenté en tout cas qui est créé voilà sur et enfin aussi sur le fait que les personnes viendraient aussi se soigner exprès ou faire de, je sais pas quoi, de la chirurgie,
oui,
en tout cas,
on a
des
même
opérations exprès pour ça, c'est
absurde, ah, complètement,
c'est absurde,
quoi. Et d'ailleurs, les médecins le disent, enfin, j'ai même entendu sur France Inter un spécialiste en chirurgie esthétique dire que non, il n'y a pas d'étrangers qui demandent l'asile pour se faire poser des prothèses mammaires. Non, ça n'existe pas.
Ah non, mais c'est des fantasmes, des fantasmes nés dans les milieux, effectivement, d'extrême droite, reprises très grandes
aujourd'hui
par la droite et le gouvernement malheureusement et alimenté en plus par les médias aussi j'ai entendu une émission sur une autre radio
une radio concurrente
concurrente elle est nationale je sais donc je sais pas si elle est vraiment concurrente
on joue pas dans la même cour
mais où la présidente du GISTI est intervenue c'est le groupement, je sais plus c'est quoi.
Alors,
je
me souviens plus de l'acronyme, mais en tout cas, c'est une organisation particulièrement sérieuse.
Qui œuvre en tout cas pour les personnes étrangères et en demande d'asile, où elle a expliqué tout ça, qu'il fallait démonter cette info, et le journaliste est revenu derrière à la charge en disant oui, mais nanana. Voilà, donc il y a aussi une alimentation des médias qui est pas forcément. C'est assez scandaleux.
Qui n'est pas forcément malveillante, mais qui joue comme si, quoi. C'est ça l'idée.
Qui n'est pas malveillante, mais en tout cas qui participe à la diffusion de fausses informations sur la santé des personnes nées à l'étranger.
Justement, juste une parenthèse par rapport à la loi, parce qu'on en a parlé il y a 15 jours d'aujourd'hui, mais voilà. Il faut juste savoir que la loi, elle ne fera que compliquer les choses et encourager un peu, la transmission des maladies. Parce qu'une personne qui arrive, elle a accès, à la santé directement. Ça permet à la personne de faire un test de dépistage et voir si, comme l'a dit Florian tout de suite, s'il y a des soins qu'on peut administrer à la personne pour ne pas que la personne puisse transmettre la maladie. Et si dès le début, la personne n'a pas accès, et voilà.
Et puis on peut ajouter que de toute façon, s'il était vrai que des personnes viennent chez nous pour se faire poser des prothèses mammaires, c'est pas le délai de 3 mois qui les retiendrait. Alors que par contre, pour les personnes qui ont réellement besoin de soins et qui sont là chez nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire en l'absence d'une couverture maladie? Ils vont se rendre aux urgences et constater
aussi,
qu'aujourd'hui, les services des urgences sont déjà surchargés. C'est vraiment absurde.
Ils n'oseront tout simplement pas, ce qui va augmenter leur chance d'être malade, malheureusement.
À ça, rajouter quand même les politiques répressives et le harcèlement aussi policier auprès des personnes où il faut toujours. Il y a quand même un climat où le ministère de l'Intérieur cherche quand même à aller voir où sont les personnes étrangères, soit sans papier, soit en demande d'asile, pour absolument les renvoyer et leur mettre une QTF.
C'est ce que dit là, c'est ce que dénonce cette chercheuse à la fin de mon sujet, c'est qu'elle dit que vraiment c'est du harcèlement qui est pratiqué aujourd'hui par l'État sur ces populations.
Et en plus, ce système risque de les envoyer vers des gens qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas réellement, qui vont leur demander beaucoup en général d'argent, et qui va les forcer à faire des choses qu'ils ne sont pas venus faire en France, et ainsi de suite. Je veux dire, cette histoire des 3 mois est dommageable pour tout le monde, y compris pour la bonne population française.
Où il y a en plus encore moins d'accès aux soins et encore moins accès en plus au traitement VIH.
Oui, et ça ne va pas les empêcher de venir parce qu'ils viennent justement pas pour ça, parce qu'on le
pas
sait.
Du tout, pas du tout.
Alors maintenant, le bah, l'agenda, vite. L'agenda, vite, rapidement.
C'est l'agenda.
Un, deux, trois. C'est l'agenda. Un jour, tu y arriveras.
Je commence vite fait, parce que Mohamed et moi, on était la semaine dernière à Saintes. Et samedi prochain, nous serons à Angoulême pour présenter Enfants de Malheur, qui sera diffusé dans les locaux de l'Ardis. Voilà, très rapidement. Je te remercie, Anne.
D'accord.
Merci
pour l'info. Et ben, on en reparlera plus longuement la prochaine fois, ainsi que du fait que Quasar a fait condamner l'auteur d'injures homophobes contre la vie du parquet.
Ça, c'est
juste le titre. J'espère que ça vous
plaît.
Absolument. Le 20 novembre prochain, qu'est-ce que je raconte ? Le 20 décembre prochain, c'est la conviviale. Et Quasar, bah, c'est au 15 rue de Jérusalem. À bientôt, à tous, dans deux semaines, de toute façon. Salut !
Au revoir.
Au revoir, bonne soirée.
Bonne soirée.